se reconnaît en écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2.
Sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 5 ans.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, c'est Aude Mon Amour, l'émission qui prend le temps de ne pas aller vite, qui essaye de ne pas polluer, de réchauffer en rond, avec aujourd'hui Pascal Baldassari et Cédric Lalanne à la technique, et assisté de Marion Lelès et de Jean-Christophe Pinaza, c'est Fabrice L'Aigle qui cette semaine réalise l'émission. Alors, une petite humeur sur le thème du retour. Retour de manivelle cette semaine pour Barack Obama et retour à la bougie pour les cow-boys nostalgiques du Tea Party, avec au programme gros bonus et chacun pour soi et une première victime toute désignée, la taxe carbone version US. Retour en France où on n'a pas non plus de taxe carbone, mais on a le Grenelle de l'environnement qui fête ses 3 ans. Et tout à l'heure avec Walter Bouvet, le directeur de la publication Terra Eco, eh bien nous verrons comment Sarkozy a failli être écolo. Retour aussi, retour avec le nucléaire, avec le concours du convoi ferroviaire le plus radioactif jamais organisé d'après Greenpeace. Le train, on le sait, a quitté la Manche, direction Gollerben en Allemagne. Alors on le suit à la trace à chaque flash info. Retour à l'expéditeur des déchets de l'industrie nucléaire allemande. Des petits bijoux dont l'espérance de demi-vie, comme on dit dans le métier, dépasse allègrement l'horizon d'une civilisation. Donc des produits hautement radioactifs qui vous transforment en verre luisant à 1 km à la ronde. En espérant bien sûr qu'on n'a pas mégoté sur l'emballage. Mais ça, je pense que c'est à peu près le cas. Bonne chance donc aussi à nos voisins d'Outre-Rhin qui viennent de reculer d'une douzaine d'années l'âge de départ à la retraite de leur centrale nucléaire et qui ne savent pas plus que nous comment entreposer convenablement des centaines de tonnes de déchets radioactifs au-delà du prochain âge glaciaire. OGM aussi. Alors OGM, voici encore du retour et par la petite porte cette fois-ci puisque la Commission européenne nous propose de faire une croix sur la tolérance zéro en matière d'OGM et d'autoriser l'importation d'aliments contenant des OGM ni testés ni autorisés pour l'homme et l'animal. Youpi. Quand même, une fois n'est pas coutume, on va saluer les hypermarchés Carrefour pour leur étiquetage nourris sans OGM, des veaux, des vaches, des cochons couvés, présentés dans certains étalages. Il y a plus de 300 produits. Bon, vous allez me dire, c'est de la communication, certes, mais c'est quand même un petit pas pour la grande distribution et un bond en avant aussi pour le consommateur averti, très souvent schizophrène, mais qui, on le sait, en vaut bien deux. Et puis, toujours sur le thème du retour, retour aux sources en Amérique et plus précisément au détroit de Bering, par où sont venus d'Asie, pensons donc les premiers Américains. Courrier international nous apprend que dans le Grand Nord, il n'y a pas que la banquise et la toundra qui dégèlent. Les relations Russie-États-Unis, elles aussi, se réchauffent et pourraient bien accoucher d'un parc naturel international de Béringie, de part et d'autre, donc du détroit de Bering. Ça veut dire quelques millions d'hectares de terre et d'océan où les êtres humains, les oiseaux, les mammifères terrestres, marins, vivront sans souci de frontières. Donc un projet en gestation depuis pas mal de temps, qui ne serait pas mal pour nous déplaire. Bref, baleine bleue, bœuf musqué et ours brun, le retour et bon baiser de Béringie. On va débuter par une petite actualité avant de retrouver Jean-Marie Pell dans quelques instants. Au-delà du retour donc des déchets nucléaires en Allemagne, vous le savez, qui font tout pour être gentils, discrets, qui compostent leurs billets de train, bah, et pourtant ils se font huer par les manifestations écologiques. Fin octobre, vous l'avez peut-être vu passer ça quand même, les parlementaires ont adopté un amendement entraînant une nouvelle hausse des tarifs de l'électricité à partir du mois de janvier prochain de 3-4% via un relèvement de la contribution au service de l'électricité. Alors cette contribution, hein, vous la voyez au dos de votre facture, permet à EDF de compenser les surcoûts engendrés par ce qu'on appelle la péréquation tarifaire, c'est-à-dire que vous habitiez dans une ferme de Lozère en Corse ou bien dans les DOM, bah, vous payez le même prix. Ça permet aussi de compenser la cogénération, la tarification sociale et l'achat des énergies renouvelables. Et là on s'est dit, on a vu ça passer, donc on augmente donc cette CSPE comme on dit, c'est de la faute au photovoltaïque. Oui, alors on le sait, les énergies renouvelables sont subventionnés. Oui, on achète 10 centimes aujourd'hui le kilowattheure nucléaire à EDF et le photovoltaïque est revendu lui autour de 58 centimes par un particulier. Donc ça a un coût. Il y a aussi une ruée sur le photovoltaïque qui n'a pas, qui n'avait que peu à voir avec l'écologie. Mais on va quand même faire le point avec un ingénieur qui s'appelle Marc Gedliska, qui est cofondateur de l'association des négawatts. Bonjour à vous. Puis dites-nous, Marc, aussi tout de suite, ce que sont les négawatts.
Bonjour. Alors c'est une association d'experts indépendant
souvent des personnes privées, on va dire, qui sont là à titre personnel, mais dont un certain nombre travaillent, alors soit dans des bureaux d'études, soit dans des associations, soit dans des administrations, et qui ont développé des réflexions sur l'avenir énergétique, et notamment des scénarios pour 2050, pour faire vite, qui seraient du 100% renouvelable, ni nucléaire, ni effet de serre, uniquement donc de l'efficacité, de la sobriété et des énergies renouvelables.
Le mégawatt, c'est véritablement le watt que l'on n'utilise pas.
Alors le mégawatt, c'est le non-watt, c'est-à-dire que c'est l'économie d'énergie qui peut venir soit de comportement, on appelle ça sobriété, soit de mesures techniques, des appareils qui consomment peu ou de la bonne isolation. Et celui-là est de préférence renouvelable, évidemment.
Photovoltaïque, accusé, levez-vous. Quelle est votre réaction ?
Le photovoltaïque, il a bon dos. Hein. En ce moment, on est en train de lui faire porter le chapeau de beaucoup de problèmes, et notamment de cette fameuse hausse de l'électricité. Alors 3%, si le photovoltaïque occasionnait réellement 3% d'augmentation, ça voudrait dire qu'il y aurait 4000 ou 5000 mégawatts d'installés. Il y en a à peine 500, 600 aujourd'hui, peut-être 800 à la fin 2010. Donc on exagère les chiffres très très clairement.
Cela dit, il y a quand même aussi un effet d'aubaine. C'est-à-dire qu'on a vu un certain nombre de hangars agricoles, par exemple, poussés pour pouvoir être couverts de photovoltaïque.
Oui, alors c'est vrai que l'aide au photovoltaïque, nous, on la réclame depuis très longtemps. Elle a été mise en place en 2000 timidement, puis en 2006 un peu plus vertement. Mais justement avec des défauts dans le système qui ont créé des niches de rentabilité où il y a des gens qui ont commencé à se faire beaucoup d'argent. Alors on parlait en guerre agricole, on peut aussi parler du crédit d'impôt chez les particuliers, etc. De l'autre côté, on a des applications qui seraient pourtant tout à fait intéressantes, notamment par exemple sur les toitures terrasses plates existantes, ou par exemple des surfaces gigantesques en France, où là on passe pas économiquement avec les tarifs actuels. Donc il y a eu un choix au départ qui a été de favoriser certaines applications de manière trop importante et d'en défavoriser d'autres. Donc effectivement, c'est la nature ayant horreur du vide. Il y a des gens qui se sont mis dans ces niches, on va dire, et on est d'accord qu'il faut rectifier un peu le tir.
On a parlé d'une économie de l'installateur, surtout, qui trouvait sa place.
Tout à fait, c'est-à-dire qu'on a créé un marché en fait de la vente de crédit d'impôt. Hein. Vous avez, comme moi probablement sur votre boîte email régulièrement, des offres plus alléchantes les unes que les autres pour ne pas payer d'impôts, pour gagner plein d'argent, etc. Et ça, c'est tout à fait normal, il faut le combattre, c'est très clair.
Pour vous, qu'est-ce que c'est ? C'est-à-dire qu'on augmente l'électricité, pourquoi ? Parce que d'abord, ce tarif n'est pas au tarif européen, et on sait très bien qu'au niveau de la Commission européenne, on souhaite que de toute façon EDF relève ses tarifs, et puis aussi il y a peut-être eu des investissements sur lesquels on peut discuter.
Oui, alors en France, on est comme le seul pays d'une Europe ouverte et libéralisée, alors on peut en penser ce qu'on veut, de l'ouverture des marchés, néanmoins on est dans cette Europe-là, et c'est le seul pays où c'est le président de la République qui décide du prix de l'électricité. Quoi. Donc il y a une anomalie de concurrence que les libéraux critiquent vertement, et c'est vrai qu'en France, on n'est pas sur un coût de l'électricité, on est clairement sur un prix. Et ça, déjà en termes de mégawatts, c'est très mauvais, puisqu'on incite les gens à surconsommer, on est un peu intoxiqué au kilowattheure pas cher, et en réalité, en plus, derrière, ça ne représente pas une réalité économique, c'est-à-dire que le nucléaire, malgré ce qu'on en dit, on peut toujours faire la politique de l'autruche et dire tout ce qu'on veut, n'empêche qu'un jour il faudra payer la facture, et on voit bien qu'elle est lointaine cette facture, peut-être sur certains aspects.
Quand vous dites la facture, ça veut dire le démantèlement, ça veut dire les déchets, le renouvellement, qu'est-ce que c'est ?
Ça veut dire à commencer par les assurances, le nucléaire n'est pas assuré en tant que tel, c'est l'État. Donc le budget de l'État et non pas le kilowattheure électrique qui prend en charge les risques d'accident. Donc et puis il y a effectivement les déchets, le démantèlement, la conservation pendant des centaines de milliers d'années des colis qui seront entreposés au fin fond des mines de sel ou je sais pas quoi.
De la Meuse, oui.
Voilà, donc ça a un coût qu'on ne sait pas calculer d'ailleurs en modèle économique. Comme on ne sait pas le calculer, on considère qu'il est à zéro, mais il faudra bien le payer un jour. Alors ça c'est l'habitude du nucléaire, c'est son défaut majeur. Mais il y a plus que ça, c'est qu'aujourd'hui, depuis quelques temps, EDF s'est lancé dans des aventures qui commencent à coûter cher, des déboires, on va dire, du coup de poker raté, notamment celui qui fait beaucoup parler en ce moment, c'est aux États-Unis.
Avec Constellation.
Constellation, on parle de 4 à 5 milliards d'euros de perdus. Il y a quand même les déboires de l'EPR en Finlande, où on parlait de 3 milliards de coûts de fabrication, de construction, on en est à 6 ou 7 aujourd'hui, et on n'a pas encore payé la facture du retard de production des kilowattheures. On voit que GDF se retire de suite Penly, etc. Donc on peut tout cumuler, on peut estimer qu'aujourd'hui EDF va faire face dans les semaines ou les mois qui viennent, en tout cas les années certainement, à des pertes extraordinairement importantes dans dizaines de milliards d'euros de ses aventures dans le nucléaire.
Donc il faudra payer cela et c'est le contribuable qui va le faire ?
C'est le contribuable, en tout cas, les comptes d'EDF, c'est quelque chose qui est un peu une boîte noire. Hein. Voilà, c'est le client, c'est un peu tout le monde, de toute façon, parce que vu les montants qui sont en jeu, je pense que ça va être un peu tout le monde. En attendant, on a trouvé une solution, on accuse le photovoltaïque d'être obligé d'augmenter les tarifs. C'est quelques dizaines, centaines de millions d'euros par an dont il est question aujourd'hui. Et même si on était dans une logique mégawatt et qu'on développe très très fortement le photovoltaïque, on serait sur 1-2 milliards d'euros par an maximum. Donc on n'est pas, vous voyez, les échelles sont quand même assez évidentes. Donc voilà, c'est un bouc émissaire qui est un écran de fumée en quelque sorte pour cacher, je pense, essentiellement les problèmes de perte forte de rentabilité d'EDF.
Merci à vous, Marc Jegliska, donc de l'association Negawatt. On peut ne pas être d'accord forcément avec cette analyse. D'ailleurs, je vous renvoie sur le site de CO2 Mon Amour. Un autre site qui s'appelle donc Sauvons le Climat, là aussi, donc des ingénieurs qui sont aussi pour les économies d'énergie, mais qui voient les choses un petit peu différemment. Donc c'est intéressant de voir ceci. On va retrouver qui ? Eh bien, Jean-Marie Pelt. Oui, ce sera donc après cette chanson, Anne Pierlet. C'était Anne Pierlet avec White Velvet qui a très envie de se faire casser les os. Hein, c'est à peu près ce que j'ai compris sur la chanson. Un qui n'a pas du tout envie qu'on lui casse. C'est Jean-Marie Pelt avec un nouvel ouvrage que nous avons sous les yeux qui vient d'arriver aux éditions de La Martinière qui s'appelle Les Voies du Bonheur. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même les réflexions d'un écologiste que vous connaissez, mais marié avec des photos de Sébastien Salgado qui est quand même pas non plus le premier venu. Beau photographe humaniste. Et alors Jean-Marie Pelt, vous débutez ce livre avec le mot « crise ».
Oui, alors j'ai commencé par une réflexion sur le mot « crise », qui est un mot que l'on trouve également en grec. Et « crise » en grec, pour les Grecs anciens, ça se disait « kairos ». Alors, c'est une période où l'ordre ancien se fissure, se craquelle, où on s'aperçoit qu'il y a des graves déséquilibres. Disons, il se passe quelque chose. C'est ça l'idée de la crise. Et cette idée de la crise s'oppose tout à fait à l'idée inverse de ce qu'on pourrait appeler les temps ordinaires, où le temps s'écoule. Alors ça aussi, en grec, c'est le chronos. Chronos, c'était le maître du temps, c'était Saturne, en quelque sorte, le temps long. Donc il y a l'opposition entre ces deux temps, qui était d'ailleurs reprise ensuite par Peggy, qui parlait des périodes où il ne se passe pas grand-chose, et des époques où vraiment les choses sont remises en question. Alors c'est vrai que nous sommes maintenant dans une vraie crise, et nous sommes invités à réagir, non pas par des discours de désolation, mais par des réactions positives et par une capacité d'être attentif à ce qui se passe et de nous y adapter.
Là, vous avez un doute, d'ailleurs.
Je continue sur le raisonnement. Comment les Romains traduisaient les mots? Alors, ils disaient « pour crise, opportunitas ». Ils avaient le sentiment que quand tout se craquait et quand tout se fissure, il y avait l'occasion de rebondir autrement.
Oui.
C'est d'ailleurs une idée, entre parenthèses, que le capitaliste utilise à fond quand on dit les opportunités, saisir les opportunités. Mais on le dit d'une manière prédatrice, c'est-à-dire on repère un endroit où on peut faire du dollar, et alors les petits malins, qui sont des spécialistes dans l'art de faire du dollar, se précipitent, font une start-up sur une niche, et pan, ils ramassent des dollars. Non, mais c'est la dégradation universelle des concepts, ça, si vous voulez. Opportunité, c'est pas... Ah, c'est comme ça que ça marche. Opportunité, c'est pas ça. Opportunité, c'est de se dire, c'est pas la fin du monde. On va faire autrement. Ça marchera autrement, ça sera bien aussi. C'est ça l'idée. Alors, en fait, cette crise, si on analyse les causes de la crise, c'est d'abord parce que nous nous sommes multipliés à une vitesse vertigineuse, puisque en 200 000 ans d'existence, l'Homo sapiens a réussi à produire une population mondiale d'un milliard, et au début du XXe siècle, et un siècle plus tard, nous voilà 7 milliards. Donc ça a explosé. Et on sait, par de nombreuses études menées sur les concentrations d'individus, notamment dans les populations de rats, que l'agressivité, elle augmente avec la densité. Et donc, il ne faut pas trop s'étonner de l'agressivité urbaine. C'est une conséquence logique de la densité aussi, ce que personne ne dit jamais.
Non.
Donc, il faut aménager les choses en tenant compte de ce facteur et en dédensifiant, non pas les villes, parce que les villes peuvent être plus denses pour ne pas s'étaler de tous les côtés en toile d'araignée, ce qui, du point de vue énergétique, est une catastrophe, mais pas faire d'énormes villes comme on rêve de le faire. On est admiratif devant les Chinois ou les villes. Alors on vous dit, vous connaissez la ville, je ne sais pas, un nom quelconque, on vous dit non, je ne connais pas, ben, elle a 30 millions d'habitants. Ah, vous dites, pardon, 30 millions, je n'ai pas bien compris. Bon, c'est hallucinant,
oui.
C'est pas bien. Alors que j'étais dans la Margerie, dans l'Auxerre, que j'ai adoré.
C'est 7 habitants au kilomètre carré maximum, là, vous
c'est
savez.
C'est pas... Bon, donc, vous voyez, il faut repenser les choses.
Peut-être qu'entre les deux, on peut trouver...
Mais voilà, il faut repenser les choses dans cette manière de voir.
Alors, peut-être quand même aussi, on est, certes, le rat est un mammifère comme nous, mais on a peut-être les moyens de réfléchir différemment par rapport au rat, hein, sur notre agressivité. Donc,
Oui, mais il nous ressemble beaucoup. Hein.
Oui, c'est vrai.
Mais nous avons la conscience.
Voilà.
C'est notre conscience qui doit nous éclairer. On a parlé avec Rabbi là, il n'y a pas longtemps. Mais quand il dit l'insurrection des consciences, c'est que nous sommes arrivés à un niveau de conscience qu'aucune autre espèce n'a atteint. Donc nous avons des moyens de réagir avec intelligence. Et en fait, si nous voulons chercher l'intelligence, nous la trouvons dans les grandes traditions philosophiques et spirituelles de l'humanité, dans les grandes sagesses, dans la sagesse de ce qu'on appelait autrefois les sauvages et qu'on appelle maintenant les peuples premiers, qui ne cassent pas la nature, qui vivent en bonne harmonie avec elle, qui voient l'œuvre d'un grand esprit, qui ne sont pas dans le matérialisme et effrayant dans lequel vivons-nous. Bon, dans les sagesses de toutes les grandes religions, panthéiste ou monothéiste, et on va à travers ce livre faire une exploration des sagesses pour apprendre ou réapprendre ce qui nous a été dit et que nous avons complètement oublié. Donc nous avons des pistes que nous pouvons suivre, et moi j'ai essayé de trouver par des textes très beaux, enfin j'ai choisi des textes, tout ce qu'il y a à apprendre concernant la sagesse nécessaire en période de crise pour réussir à passer la crise.
C'est un moyen, vous dites ça très joliment, pour essayer de refroidir la machine à consommer.
Oui, elle est complètement emballée, celle-là. Alors ça, c'est extraordinaire. La machine à consommer, c'est quelque chose d'extraordinaire. On en reparlera d'ailleurs.
D'accord. Merci beaucoup, cher Jean-Marie. Et puis, on vous retrouve la semaine prochaine. Au revoir, Jean-Marie.
Au revoir, Denis. Au revoir à tous.
Et puis, donc, après ces voix du bonheur, maintenant, les voix d'un monde différent, on l'espère meilleur, avec vous, Walter Bouvet, directeur de Terra Eco. Bonjour à vous, Walter.
Bonjour, Denis.
Vous êtes à France Bleu Loire-Océan, donc merci à nos amis de Nantes qui vous accueillent. Et donc on va feuilleter un peu ce numéro du mois de novembre avec quand même ce titre. Là vous y allez, comment Sarkozy a failli être écolo. Je vous en prie, allez-y.
Oui, failli. Dans tous les sens du terme.
Oui,
oui ben Grenelle, c'était une belle idée hein, qu'il a portée pendant la campagne présidentielle 2007, notamment sous la pression... très opportune, on parlait d'opportunité à l'instant, très opportune des ONG, l'Alliance pour la planète, emmenée par Nicolas Hulot, comme chacun sait. Et donc le Grenelle est arrivé alors qu'à l'époque, si on s'en souvient, on n'y croyait pas trop. Et puis tout le monde a été un peu étonné de la méthode, plutôt intéressé on va dire, et les ONG ont vraiment joué le coup et ont accepté de s'y prêter. Là, on est 3 ans plus tard et on compte les points. Et malheureusement, il y a quand même 2-3 trucs qui ne vont pas.
Alors, écoutons d'abord effectivement ce son de Sarkozy au mois d'octobre 2007.
Nous voulons faire de la France le leader des énergies renouvelables. Au-delà même, José Manuel, de l'objectif européen de 20% de notre consommation d'énergie en 2020.
Oui, parce qu'il était évidemment face à M. Barroso et donc ils se connaissent un petit peu, donc c'est pour ça qu'il parlait de José Manuel. Où en sommes-nous, énergie renouvelable ?
Alors, énergie renouvelable, on en est à un point très important, notamment alors, sur l'éolien. Cette année, une loi est passée donc, à l'Assemblée nationale qui, en gros, durcit les conditions pour ouvrir des parcs, des fermes éoliennes. Ce qui fait qu'en gros, seuls les très très gros énergéticiens vont pouvoir désormais se lancer dans l'aventure et que les parcs, loin de se multiplier, vont pousser à une allure beaucoup plus lente que jusqu'à présent. Hein. Il y a eu un vrai décollage ces dernières années. On se demande, alors selon le gouvernement, on arrivera à 23% d'énergie renouvelable dans la production électrique d'ici à 2020. Mmh. On est aujourd'hui à peu près à la moitié de ce parcours. Franchement, on peut douter de ce chiffre, même si les parcs éoliens offshore, donc en mer, peuvent pousser assez rapidement.
Oui, ils seront de toute façon, a priori, mieux acceptés, on va dire, en mer. Enfin, même si les pêcheurs nous écoutent, ils vont nous dire « mais pas du tout, pas du tout ». Les gens qui sont riverains vont vous dire « mais pas du tout, pas du tout ». Mais globalement, c'est quand même pas là que ça va se passer.
Non, et puis il y a une incapacité à considérer ce secteur comme un vrai secteur de créateur d'emplois non délocalisable, d'innovation, de tout ce qu'on veut. Et même quand on en parle, on dit « c'est 1 euro pour le renouvelable et 1 euro pour le nucléaire ». Donc, on n'arrive pas à se détacher de cette religion du nucléaire, monothéiste quasiment.
Mmh. Oui, c'est ça. L'éco-redevance sur les camions vont peut-être nous oublier, en tout cas jusqu'en 2012, on ne va pas y toucher, on ne va pas se fâcher avec personne.
Trop compliqué.
Et on parle de la taxe carbone.
Alors la taxe carbone.
Est-ce que la révision générale des prélèvements obligatoires se penche sur la création d'une taxe climat-énergie en contrepartie d'un allègement de la taxation du travail pour préserver la compétitivité, Madame la Ministre des Finances ? Et pour préserver le pouvoir d'achat, monsieur le responsable syndical. Enfin, une démocratie irréprochable.
Voilà, en tout cas, on a essayé. Hein. C'est pas passé, mais ils ont essayé quand même.
Ça, c'était en 2007. Alors, pendant 2 ans, rien. Et puis, au lendemain des élections européennes, donc au printemps 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez, gros succès, grosse poussée des écologistes.
Europe Écologie, oui.
Voilà. Et 3 jours plus tard, pouf, la taxe carbone sort du chapeau.
Youpi.
Et puis, 1 an plus tard, les régionales, donc ça c'était 2010. Et 3 jours plus tard, on remet la taxe dans le chapeau. Sous prétexte que c'est un problème pour la compétitivité, que les Français n'en veulent pas, et que, évidemment, résistance habituelle. Cette déconvenue de la taxe carbone montre à quel point le président et le gouvernement sont finalement, un peu comme nous tous, mais je dirais quand même en pire, un peu schizophrènes, voire très schizophrènes, et qu'on est entre deux sociétés et qu'on n'arrive pas à franchir le cap de la confiance en l'avenir et de dire on va créer quelque chose d'autre qui n'est pas forcément un retour à la bougie, qui qui est quelque chose de nouveau, avec des nouveaux emplois, une économie plus verte. Après, il y a la question de la croissance ou pas, de la prospérité ou de la croissance, ça c'est un autre sujet. Mais on voit bien qu'au moment de franchir le Rubicon, eh bien, on n'ose plus, c'est trop difficile. Et cette présidence de la République, et je pense Grenelle de l'environnement, est le symbole de tout ça et de toutes ces résistances qu'on observe au quotidien autour de nous et dont nous sommes, il faut bien le dire, parfois les acteurs.
On ne touche pas non plus au transport, hein, parmi les 10 mesures que vous avez pointées, on sait qu'ils sont non tenues, pas de nouvelles autoroutes, oui certes.
Non, par contre, on continue celles qui étaient déjà en projet.
Voilà, c'est ça.
Voilà. Donc, y compris si le kilomètre n'était pas créé, il faut bien le créer. Donc, bon, moi j'appelle ça une nouvelle autoroute, mais pour le gouvernement, ça n'est que la continuation d'anciens projets. Effectivement, là encore, illustration du fait qu'on n'arrive pas à penser hors du camion, de la bagnole, du nucléaire. En tout cas, qu'on a du mal à faire de la place à autre chose, sans même abandonner tout ça.
Alors, un autre son de Nicolas Sarkozy. Sur la TVA. La TVA, ah bon, on l'avait promis, c'est pas grave, on va le faire nous-mêmes, Walter Bouvet, la reconduction de la TVA sur les produits verts.
Ben ça, ça a fait long feu. Alors, il y a eu une expérience intéressante qui ne concerne pas la TVA, qui est le bonus-malus sur les automobiles. Ça marche tellement bien que ça coûte de l'argent. Bon, c'était un peu prévu. Voilà. Alors, la crainte d'appliquer un système de TVA qui permettrait de réduire donc la TVA sur les produits un peu plus écologiques, un peu plus respectueux de l'environnement, en ces temps de disette, de restrictions budgétaires et de crise financière, ce sont des recettes en moins. Et donc, on n'ose pas, encore une fois, raboter, en tout cas, sur ces recettes-là.
Il est urgent d'attendre.
Voilà, il est urgent d'attendre. Le problème, c'est que pendant ce temps, l'état de nos ressources, de la planète, continue de se dégrader. Et que ça n'avance pas.
Écoutez, nous allons vous partir dans une merveilleuse station grâce à Florent Marchais. Il y avoir un petit taux de CO2 très intéressant. Ça s'appelle Courchevel. On vous retrouve dans quelques instants, Walter Bouvet.
A tout de suite.
Non, non, on part pas tout de suite. Hein. J'attends la fin de CO2, mon amour. On ira faire les courses après. En voiture? Ah non, pas sûr. Je demanderai d'abord à Denis Chissot.
Quand tu passes tes Noëls au chalet à Courchevel, bien trop loin de nos fenêtres, j'imaginais sans connaître, dans tes poumons de crevettes, l'odeur de la piste verte et tes parents peu de nom dans les hôtels du néant. Quand tu passes tes étés, coquillages à l'île de Ré, si loin de nos soleils fades, j'imaginais tes balades, les chevaux, la cousine, la plage qui se dessine et sous un sol, tes parents dans le formol. Nous on restait là, on n'avait pas la chance. La parole, on n'avait pas les mêmes vacances. Tu nous faisais rêver, mais on ne savait pas que dans cette villa, le cœur n'y était pas. Quand tu passais tes dimanches, bien peigné, chemise blanche, les promenades au parc, bagatelle en barque, belle allure des vitrines, l'amour ça se devine, et tes parents se tenant par le bout des sentiments. Mais un jour que t'es de trop, ta tristesse sous le métro, gardant la ligne de mire, ce que tu dois devenir, dans les beaux quartiers tout neufs, qui de la poule ou de l'œuf, est-ce utile de se défendre, ou bien tes larmes les rendre. Nous on restait là, on n'avait pas la chance.
CO2 mon amour, avec vous Walter Bouvet et Terra Eco, nous feuilletons donc ce numéro du mois de novembre 2010, peut-être pour terminer sur ce Grenelle de l'environnement, on le rappelle, hein, quand même c'était un projet tout à fait ambitieux, un paquet de mesures qui s'est un peu effiloché avec le temps, on l'a compris, qui a été quand même gentiment raboté et démantibulé par l'Assemblée nationale. Je ne crois pas qu'ils aient forcément très très bien vécu d'ailleurs ce Grenelle de l'environnement, quand on discute avec certains députés et d'autres sénateurs, mais peu importe. Que souhaitez-vous dire, je dirais, peut-être en finale de ce Grenelle avant de passer à un autre sujet?
Il faut quand même reconnaître que la méthode est intéressante.
Ah oui.
Et donc elle n'est certainement pas jetée aux orties. Maintenant, ces luttes auxquelles on assiste et ce détricotage dont vous parlez laisse un goût quand même très amer et montre à quel point on n'est pas capable de considérer que l'économie n'est pas tout et que l'économie ne supplante pas tout. Et cette révolution du Grenelle, c'était aussi dire ça, que l'économie doit se mettre au niveau du reste, et évidemment notamment de l'écologie et des enjeux sociétaux, on n'y est pas.
Un autre sujet dans le Terra Eco du mois de novembre, scooter ou voiture? Alors vous avez fait un test comparatif et c'est vrai qu'en ville, les scooters se reproduisent plutôt bien, il y en a de plus en plus. Bah, c'est normal, on se faufile, on gagne du temps, mais gagne-t-on aussi en pollution et en gaz à effet de serre? Alors je vais me tourner vers Patrick Corollaire qui est le chef du service transport et mobilité de l'ADEME. Donc que peut nous dire l'expert de l'ADEME sur ce sujet?
Oui, je crois qu'il faut se placer à deux niveaux. Quand on étudie, on fait un comparatif entre les deux roues motorisées et les voitures. Il faut se placer au niveau d'une part de la consommation et du CO2, et puis au niveau des polluants dits réglementés. Au niveau de la consommation et du CO2, un scooter, on va prendre un scooter 125 cm3 ou une moto 125 cm3 par exemple, est bien plus performante qu'une voiture. Elle va émettre deux fois moins de CO2, donc ce qui est très bon pour le climat. Deux fois moins de CO2, mais aussi deux fois moins de consommation.
Oui, c'est-à-dire que le CO2 est directement proportionnel à la consommation d'essence.
Voilà. Moins on consomme de carburant, moins on émet de CO2, meilleur c'est pour la planète.
Mais les polluants?
Les polluants, alors là, c'est un autre problème. C'est plus compliqué, plus complexe, et c'est aussi plus délicat pour les deux roues motorisées. Il y a eu un retard dans la sévérisation des normes. Qu'on est à Euro 5 aujourd'hui pour les voitures qui sortent, on n'est encore qu'à Euro 3 pour les deux roues motorisées, donc on pourrait dire qu'on a presque 10 ans de retard en matière de pollution des deux roues motorisées par rapport aux voitures, ce qui fait que sur le plan de la qualité de l'air et de la santé, eh bien les deux roues, les 125 cm3, on va reprendre le 125 cm3, hein, eh bien va émettre presque 6 fois plus de monoxyde de carbone, 6 fois plus d'oxyde d'azote qu'une petite voiture essence, et va émettre jusqu'à 10 fois plus d'hydrocarbures à brûler. Donc on voit que au niveau de la qualité de l'air et de l'impact sur la santé, c'est moins bien qu'une voiture. En conclusion, ce qu'on peut dire, bien en matière de consommation de CO2, hein, en tout cas meilleur que les voitures, mais sur le plan de la qualité de l'air et donc l'impact sur la santé, il y a des progrès à faire, il y a des marges de progression très importantes.
Tant qu'il n'y a pas de réglementation plus importante, les constructeurs de deux roues n'iront pas plus loin. C'est quand même la réglementation qui les fait avancer.
Bien entendu. Donc il va y avoir une sévérisation des normes. Déjà Euro 4, les seuils d'émission ont été édités par la Commission européenne. Donc on sait déjà, on a une première approche de ce que sera Euro 4 pour les deux roues, et puis il y aura une très sévère réglementation 4 ans après, je pense, à Euro 5, donc c'est vers les années 2018, où là, je pense qu'on rattrapera le retard en matière de dépollution pour les deux roues par rapport aux voitures.
Moralité, vive le vélo électrique.
Moralité, vive les nouvelles technologies et les ruptures technologiques.
Ouais.
Donc, ce qui est intéressant aussi de constater, c'est qu'on voit apparaître des nouvelles solutions. On voit le stop and start, par exemple, pour des motos. Certains constructeurs, aujourd'hui, proposent ce type de stop and start.
Ça veut dire que le moteur s'arrête, ce moteur se coupe tout seul lorsqu'on est à l'arrêt.
À l'arrêt, dans les bouchons, au feu rouge.
Ouais.
Il y a des solutions hybrides aussi. On voit apparaître des deux roues hybrides, donc c'est très intéressant. Et puis, moi je pense que pour la ville, la solution, c'est la meilleure solution, la plus propre, c'est bien sûr la traction électrique. le scooter électrique, le cyclomoteur électrique ou le vélo à assistance électrique, ce sont quand même des bons modes de transport propres et économes qu'il faut encourager. Alors c'est un peu cher, il y a le problème de la prime, mais ça va se développer, on le voit dans notre pays, que ça se développe à vitesse très élevée.
Merci beaucoup Patrick Corollaire, puis à très bientôt.
Merci à vous.
Voilà, et puis le vélo sans batterie, ça marche aussi pas mal, hein, paraît-il, Walter Bouvet. La semaine prochaine, je passerai le son qu'on avait enregistré sur Stockamine. Stockamine, donc un poison en terre alsacienne, ça c'est aussi un des articles de ce Terra Echo. Quelques mots sur un autre article, comment Monsanto drague le Sud, Walter Bouvet?
Mais oui, Monsanto, vous connaissez cette multinationale dans laquelle vous candidatez, envoyez des CV à peu près toutes les semaines, évidemment.
Bien sûr, ah bah oui.
Vous avez très envie. Donc Monsanto, c'est quoi? C'est un semencier, très très gros semencier, spécialiste notamment des semences OGM. Et lors du tremblement de terre en Haïti, au début de l'année, on a vu débarquer des stocks de maïs hybride. Plusieurs dizaines de tonnes qui ont été pour certains brûlées par la population qui a préféré substituer à ce stock des semences locales.
Et donc eux vous disent on se lance dans l'humanitaire.
Voilà, alors Monsanto a fait, puisque c'est Monsanto qui est à l'origine de ce don, c'était un don, évidemment très bien intentionné, soutenu par l'agence USAID, donc qui est le bras armé de l'aide internationale américaine, sur ce type de catastrophe. Et puis, rébellion des paysans qui, eux, disent, ben non, on peut très bien travailler avec des semences locales. Alors, ça n'a pas empêché, pour ce qui est d'Haïti, de faire débarquer quand même 130 tonnes de semences OGM qui vont donc être semées et exploitées dans le pays. C'est pas la première fois que Monsanto fait ça. Ça s'est vu au Malawi en 2006. Ça s'est vu dans des contextes moins extrêmes en Inde, avec le coton bété, voilà. Et puis également au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest, qui est un peu le pays phare, enfin en tout cas le pays test pour Monsanto, avec des accords qui ont été passés avec la présidence, avec l'université, pour faire ces tests. Alors évidemment, tout ça est fait sous le vernis de l'assistance, de l'aide humanitaire, de l'aide au développement, et donc des bisounours, comme voilà. En réalité, il s'agit d'une forme de cheval de Troie, pour pouvoir mettre un pied dans tel ou tel pays au sud.
Et vous l'expliquez très très bien donc, dans cet article. Un grand merci Walter Bouvet, et puis on vous retrouvera bientôt avec une autre actualité de Terra Echo. A bientôt.
Au revoir.
Au revoir Walter, et merci à nos amis de François Rotiron.
Aucun Boeing sur mon transit. Aucun bateau sous mon transit. Cherche en vain la portée exacte. Je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors. Ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais ces photos de l'Asie que j'ai prises à 200 à ça. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vivent. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mes hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains.
Ah, rappelez-moi son nom. Ah, j'ai oublié. Non, en tout cas, c'était Lanamour.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Avec un ouvrage tout à fait extraordinaire qui s'appelle « Aux origines de l'environnement ». Dans notre culture, le monde est devenu l'environnement de l'homme. L'homme au centre et autour, ce qui l'environne, avec ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Bon, nous avons agi sur cet environnement, nous le savons. Et l'écologie est devenue en fait la première science systémique et transdisciplinaire. Alors en fait, Pierre-Henri Gouillon, qui a dirigé cet ouvrage « Aux origines de l'environnement » aux éditions Fayard et Radio France et France Info, vous êtes, je tiens à le dire d'abord, vous êtes agronome, vous êtes biologiste et évolutionniste, vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle et avec Hélène Riche, vous avez dirigé ce livre en convoquant donc des philosophes, des anthropologues, des géochimistes, des astrophysiciens, des climatologues, que sais-je, avec vraiment un mot qui est fort, qui est le mot de « relier ».
On avait envie de produire quelque chose qui permette aux gens de se faire une idée générale sur l'idée d'environnement et sur les questions qui se posent à son sujet. Mais déjà sur l'idée d'environnement, il faut bien voir que c'est une drôle d'idée, on en parle dans divers contextes et on les relie pas toujours alors qu'ils sont reliés, hein. L'environnement vu comme la biodiversité, les problèmes climatiques, mais aussi l'environnement du nouveau-né, l'environnement même de l'embryon, l'environnement qui nous constitue en interaction avec notre génome, l'environnement auquel on est plus ou moins adapté sur le plan biologique comme sur le plan psychologique. C'est pour ça qu'on a des gens qui vont réfléchir à la question de savoir comment le génome et l'environnement nous constitue, ça c'est Jean-Claude Amezen, ou comment se relie un individu avec son environnement psychologique. On a Alain Gillis, donc psychiatre, qui va parler de ça. Et puis on va voir évidemment des gens qui parlent de l'environnement climatique, de la biodiversité. Et aussi, pour faire ça, je pense qu'il fallait se donner le mal de repartir de l'origine, et donc de l'origine de l'univers, au fond, comment s'est constituée la Terre avec ses constituants, et puis ses mécanismes de base, climatiques, biologiques ensuite, et puis progressivement l'arrivée de l'humain et toutes ses actions. On a essayé de relier les différents sens de ce mot et de voir à quoi il correspond aujourd'hui comme questionnement dans notre société.
Alors c'est un grand jeu, on va dire, de poupées russes. Et aujourd'hui, on est passé quand même de cette approche locale à une approche globale. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. Ça date vraiment de la fin du XXe siècle, début du XXIe siècle.
On peut dire que l'approche globale doit beaucoup à la conquête de l'espace, il faut bien le dire. Tout le monde s'accorde à dire que la première fois où les humains ont vu leur planète de loin, la petite planète bleue, l'idée d'une petite planète déjà, et puis bleue en plus, elle est venue de ces images extraordinaires de l'espace. Et là, on s'est rendu compte qu'on est dans un monde fini et que la planète, il fallait la regarder globalement. Et c'est toute la difficulté, c'est qu'il faut regarder globalement, mais il faut regarder localement. Il faut agir globalement et il faut agir localement. Quand on a des gens qui croient qu'on peut se contenter de regarder global et d'agir local ou le contraire, évidemment ça ne marche pas. C'est à toutes les échelles qu'il faut comprendre et agir.
Alors Pierre-Henri Gouillon, aujourd'hui on assiste au dérèglement du climat, à la baisse des ressources, à la chute de la biodiversité et donc aussi à l'apothéose d'une économie prédatrice. Est-ce que l'on doit, au nom de ces doutes, rejeter le progrès ?
Il ne faut certainement pas rejeter le progrès, au contraire, même il faut l'appeler de nos voeux. Simplement, il faut peut-être le réorienter. Et ça, c'est la difficulté. Il y a un certain nombre de gens qui se sont appropriés le progrès en disant, voilà, le progrès, c'est ce qu'on propose, nous. Et en gros, l'idée, je pense qu'on peut dire, c'est il y a un progrès scientifique qui vient de la recherche, qui va comme elle veut, comme si d'ailleurs la recherche n'était pas influencée par ce qu'on lui demande. Ensuite, ça amène un progrès technique. Et ce progrès technique permet d'améliorer la vie des humains, et les humains, débarrassés de toute une série de contingences grâce au progrès technique, vont s'élever l'esprit et on va avoir un progrès social et moral dans les sociétés. Beaucoup de gens pensent que le XXe siècle a été un démenti à cette vision-là du progrès, c'est-à-dire prétendre qu'on peut partir du progrès scientifique et du progrès technique et qu'on n'a pas besoin d'orienter ce qui se passe pour arriver vers quelque chose de mieux sur le plan moral et social. Les différentes guerres mondiales et le fait qu'on n'a jamais réussi à se débarrasser simplement des gens qui meurent de faim alors qu'on produit assez pour nourrir tout le monde montre que ça ne suffit pas. Et donc la question, ce n'est pas de nier le progrès, c'est de remplacer l'idée d'un espèce de progrès subi qui serait ce progrès-là qu'on nous impose parce que la technologie nous permet de faire un truc du coup on va le faire, remplacer ce progrès subi par des progrès choisis parmi un ensemble de progrès possibles.
Vous dites aussi que l'importance de ces questions environnementales interdit aujourd'hui de placer donc cette foi aveugle dans les technosciences, mais en même temps, Hubert Reeves le rappelle aussi dans sa préface, ne pas prendre de décision sans convoquer la science. C'est pas possible, quoi.
Bien sûr. La science est très importante. Simplement, elle ne peut que donner un éclairage sur ce qui se passe et ce qui pourrait être la conséquence de telle ou telle action. Ce qu'elle ne peut pas faire, c'est dire où est le bien, où est le mal. Et ça, c'est la grosse erreur qu'ont commis les scientifiques assez souvent au cours du XXe siècle. En tout cas, je connais mal l'histoire avant sur ces plans-là. Mais quand on voit les scientifiques défendre l'eugénisme et dire qu'il faut stériliser les ratés dans les sociétés occidentales dans les années 30, eh bien, on voit là une manière de faire de la science qui se contente pas de dire voilà ce qui se passe et voilà ce qu'on peut faire, mais qui dit ce qu'il faut faire. Or, stériliser les gens, c'est un acte social lourd et c'est pas la science qui peut dire si c'est bien ou pas. Et c'est un peu la même chose dans le débat sur les OGM. On voit des scientifiques, moi que les scientifiques disent voilà ce qu'on espère avec les OGM, voilà les craintes qu'on peut avoir, etc.
C'est
ça, c'est leur boulot. Maintenant, quand ils disent il faut absolument défendre les OGM, sinon ça sera la catastrophe pour l'humanité, là ils sont plus dans leur rôle, ils sont au-delà, ils sont dans un rôle politique. Et pour le moment, avec l'histoire de l'eugénisme en particulier, on voit bien comment les scientifiques peuvent se fourvoyer. Et je crois qu'actuellement, il y a beaucoup de scientifiques qui, au nom du progrès, de ce progrès technique qu'il faudrait en rien arrêter, on n'arrête pas le progrès, etc., eh bien là, les scientifiques sont très très hors de leur rôle.
Pierre-Henri Gouillon, vous avez des gens qui vous disent aujourd'hui, en fait, on trouvera toujours autre chose. Quand on aura épuisé telle ressource, on passera à une autre source. Donc ça, c'est vraiment un peu l'aspect minier des choses.
Oui, il y a une vision minière de la planète au sens large, de l'agriculture. Il y a des gens qui parlent d'une agriculture minière en disant, voilà, on épuise et puis après on se barre et on va ailleurs. Mais justement, le problème, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pourrait pas aller ailleurs. Alors, c'est vrai que ça reste un rêve d'un certain nombre de gens de dire, une fois qu'on aura épuisé cette planète-là, on n'aura qu'à en coloniser une autre. Moi, je serais content qu'ils partent vite, ceux-là, de manière à ce qu'on reste ici avec ceux qui ont envie de ménager la nôtre de planète. Moi, je crois qu'on arrive à un point où l'humanité est devenue trop nombreuse et trop puissante en termes de technique pour pouvoir continuer à conduire en aveugle de cette façon-là.
D'où la fameuse ère de l'Anthropocène dont parle Kreutzer, prix Nobel de chimie, en disant qu'on est maintenant une espèce de force géologique.
Je pense que les humains se sont maintenant rendus compte de la puissance de leur action à l'échelle de la Terre. Ce qu'ils n'ont malheureusement pas mesuré, c'est que notre action est plus puissante que notre capacité à prévoir. Et ça, c'est vrai que c'est un défaut de la science telle qu'elle s'est développée. Je ne sais pas si elle aurait pu se développer autrement. Autant on sait plein de choses et on sait modifier plein de choses, autant prévoir, ça reste largement au-delà de nos possibilités dans des tas de domaines. C'est vrai que les climatologues sont donnés un énorme mal pour arriver à être prédictifs. Et moi, j'admire beaucoup le travail des climatologues, comme Jean Jouzel, qui est dans le livre, qui ont fait un travail remarquable et extrêmement humble sur ces questions, éliminant progressivement toutes les hypothèses jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une. Dans le domaine de la biologie, par exemple, on est très très loin de pouvoir prédire à ce point-là, il n'y a rien à faire. On ne peut même pas prédire exactement quel est l'effet du fait de changer un gène dans un organisme sur le plan général de l'action de cet organisme dans la nature. Alors quant au fait que des espèces disparaissent, etc., on ne sait pas grand-chose. Le résultat, c'est qu'on peut espérer que ça sera moins grave que ce qu'on peut craindre. C'est vrai que quand on regarde, par exemple, les grandes crises d'extinction du passé, on constate qu'elles se font par paliers. On a un peu l'impression d'un château de cartes qui s'effondre par morceaux, quoi. C'est-à-dire que l'effondrement d'un morceau fragilise un autre qui ensuite tombe et ainsi de suite. Si vraiment il y a des phénomènes comme ça, d'abord, on ne les connaît pas, on n'est pas capable de les prédire. Et le malheur, c'est quand on les verra arriver, il sera un peu tard, quoi.
Alors nous sommes à la fois la cause et la solution de ces problèmes, puisqu'on a donc transformé le monde. Alors à la fois une bonne partie sûrement en bien, et puis on voit bien que là, le balancier est allé un peu trop loin. Vous convoquez aussi Edgar Morin comme philosophe dans un chapitre qui s'appelle « Pour entrer dans l'an 1 de l'ère écologique ». Et en fait, il nous dit « Nous devrons aménager cette planète. On doit abandonner notre projet conquérant qui a été initié par Descartes, par Buffon, par Marx. C'est-à-dire ne plus dominer, mais aménager le monde, c'est une des clés de ce 21e siècle. »
Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que des gens ont ce type d'idée. J'ai entendu un des grands responsables de l'INRA il y a quelques années, malheureusement il n'est pas resté très longtemps, dire que l'agronomie devait devenir une science appliquée de l'écologie. Et d'ailleurs la médecine, c'est un peu la même chose. Quand on pense qu'on vit avec des bactéries qui sont dans nous, qui sont autour de nous et qu'on échange en permanence, plutôt que penser qu'on peut se contenter d'éliminer toute bactérie qui nous dérange à grands coups d'antibiotiques, que le travail intelligent, ça serait peut-être d'essayer d'orienter ces communautés bactériennes de manière à ce qu'elles nous soient bénéfiques, plutôt que de croire qu'on peut lutter contre. Je pense que si on prend une attitude de guerre contre les bactéries, encore quelques dizaines d'années, puis on aura perdu. Je veux dire que si, alors qu'on peut très bien travailler avec elles et qu'on sait qu'on a besoin d'elles.
Que penserait aujourd'hui Darwin, que vous avez un petit peu connu, et qui nous a quand même donné une grande partie des clés d'évolution du monde, il faut bien le dire. Vous l'avez côtoyé, on va dire. Voilà.
Je l'ai lu.
Qu'est-ce qu'il penserait de notre monde aujourd'hui?
Ah, écoutez, j'aurais du mal à prendre sa place. Je pense qu'il serait déçu, en tout cas. Il serait déçu au moins sur deux plans. L'un, c'est qu'il espérait un progrès moral et humain plus grand, je pense, que ce qu'il trouverait. Mais ça, c'est difficile à dire. En revanche, il y a un point sur lequel, à coup sûr, il serait déçu, c'est sur notre compréhension de la biodiversité. Il a insisté sur le fait que la diversité des êtres vivants, c'était la diversité de tous les êtres vivants, pas seulement celle des espèces, comme on l'avait cru au XVIIIe siècle, à partir de la Bible, sur le fait que les espèces ont été créées par le Créateur. Darwin a insisté très très lourdement sur le fait que de la différence entre deux individus, entre deux populations, entre deux variétés, entre deux sous-espèces, deux espèces, deux genres, etc., il y a un continuum de diversité et il n'y a aucune raison de se fixer sur l'espèce. Il s'est rendu compte tout de suite qu'il aurait du mal avec ça, puisque dès 1860, un an après la publication de l'Origine des espèces, il a écrit qu'il était souvent désespéré d'obtenir que les naturalistes le comprennent et que des gens intelligents qui n'avaient pas une vision bigote du terme espèce montraient plus de clarté d'esprit. Donc, il verrait que 150 ans après, tout compte fait, la vision bigote du terme espèce n'a pas tant disparu que ça, même pas dans les milieux scientifiques, alors particulièrement pas dans le grand public, où on continue à croire que la biodiversité, c'est une liste d'espèces. Or, la biodiversité, ce n'est pas une liste d'espèces, c'est un processus en perpétuelle évolution. Et le maintien de la biodiversité, ce n'est pas le maintien des espèces, c'est le maintien de la dynamique qui produit tout le temps de la nouveauté, tout en éliminant de l'autre côté. Et ça, vous voyez, par exemple, dans la communauté scientifique, on est tous convaincus de ça, mais on est convaincus au fond. Et puis quand on discute avec des décideurs, avec des politiques, avec même des journalistes, des fois, on trouve que c'est plus simple de revenir au nombre d'espèces et crac, on retombe dans le vieux travers de présenter la diversité comme une chose existante et pas comme un processus dynamique permanent.
Pierre-Henri Gouillon, juste avant de se quitter, si on ne change pas nos systèmes économiques, juridiques et politiques actuels, qui sont après tout relativement récents, est-ce qu'on peut arriver à changer sans changer ces systèmes-là?
Ah non, il est clair que les leviers dont dispose l'humanité pour modifier la façon dont elle agit sur l'environnement, ce sont des leviers économiques, politiques et juridiques. Donc il est clair qu'il faut agir dessus. Moi, je vous avoue que je suis d'un pessimisme modéré, en quelque sorte. C'est-à-dire que je pense qu'un jour ou l'autre, les humains deviendront responsables et prendront en main ce qu'ils doivent prendre en main dans ces affaires. Ça veut dire changer un certain nombre de choses sur le fonctionnement économique. Jacques Weber en parle. Il y a des possibilités économiques de faire que l'économie soit plus vertueuse vis-à-vis de l'environnement, entre autres. D'ailleurs, on ne peut pas séparer l'environnement et les humains tant que l'économie écrabouillera les humains et écrabouillera l'environnement et réciproquement. Ce que je crains, c'est qu'on ait du mal à se donner les moyens de changer ça suffisamment tant qu'il n'y aura pas eu des catastrophes plus ou moins graves. Moi, c'est ça qui m'inquiète, c'est que j'ai un peu l'impression qu'actuellement, on fait un travail de lanceur d'alerte, au fond, mais que cette alerte ne portera ses fruits qu'après qu'il y ait eu un problème. Alors, au fond, je me dis que plus l'alerte aura été lancée fort, moins il y aura besoin d'une grosse catastrophe pour que les gens finissent par réagir. Mais j'ai un peu éliminé l'espoir qu'on réagisse avant le moindre problème grave.
On préférait le préventif au curatif.
C'est
effectivement choisir plutôt que de subir. Bon, en tout cas, peut-être que dans 15 ans, vous réécrirez ce bouquin différemment. Mais c'est une très très belle somme. Donc, aux origines de l'environnement, aux éditions Fayard et Radio France, avec nos collègues de France Info. Donc, sous votre direction, ainsi que celle d'Hélène Le Riche. Un grand merci Pierre-Henri Gouillon, puis à très bientôt.
Merci à vous, au revoir.
Et donc cet agenda a été constitué, vous l'avez compris, de ce livre aux origines de l'environnement. Je reparlerai la semaine prochaine des éco-dialogues du Vigan, je leur avais promis, donc au pied du Vigan, la semaine prochaine ils font des choses assez formidables eux aussi. Merci à Pascal Baldassari, à Cédric Lalanne aujourd'hui à la technique, à Marion Lelay notre assistante, à Jean-Christophe Pinaza et Fabrice Lègle qui réalisait cette émission. Muriel Pérez a choisi les disques, Anne Gouzon nourrit les sites de CO2 Mon Amour, je vous renvoie d'ailleurs aussi sur son site sur l'actualité de l'environnement en temps réel. La semaine prochaine, nous retrouverons Jean-Marie Pelt. Nous irons dans le Marais Poitevin. Ce sera notre reportage. Et ce sera une actualité aussi avec Nathalie Fontrelle. Denis Chessou, je vous souhaite un très bon week-end. L'Atelier du Mont Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux avec des livres consacrés à De Gaulle. C'est l'actualité. Et dans quelques instants, les liaisons heureuses de Colombe Schneck. Allez, cinéma!